22 juin, propriété privée. Noël a une vieille bagnole, rouge, et je crois que c'est l'unique chose qui pourrait faire penser qu'il a une très vague notion de la propriété privée. Pour le reste, on peut tout lui prendre, il s'en fout avec beaucoup de majesté. D'autant plus qu'il n'a pas énormément de trucs. Évidemment, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. S'il a besoin de fringues pour l'hiver, il casse une boutique. S'il veut manger de la viande, une boucherie. Je l'ai déjà vu se faire un tabac juste pour une cartouche de clope. Peut-être une petite secousse au tiroir caisse en partant, mais c'est parce qu'on lui réclame de l'argent en échange de sa poudre ou de ses bières. Il n'y a pas longtemps, il est tombé sur une chaîne stéréo dans la vitrine d'un grand magasin, fermée ce matin-là. Ni une ni deux, il a ramassé un parpaing, dégommé la vitre et embarqué la chaîne. Le tout en pleine journée, sans que personne n'ose intervenir. Il en fait beaucoup comme ça, tellement naturellement que, sauf exception, tout se passe très bien. Le mois dernier, pour mon anniversaire et comme il pleuvait, il m'a offert un incroyable imperméable, griffé et sobrement doublé en chinchilla. Un pur fantasme d'exhibitionniste, assez délicat à porter en d'autres occasions. L'autre jour, il a trouvé l'entrée du dépôt d'un marchand de tapis de la rue dont la porte était mal fermée, les gens sont très imprudents. Croyez-moi, le patron n'est pas à plaindre, il a plusieurs magasins en ville, n'empêche. Noël a fait un méchant trou dans son stock. Il en a revendu la moitié, en gros et pour trois fois rien évidemment, et l'autre est chez nous. Je suis sûr que même des gens très riches n'ont pas les moyens d'avoir trois couches de tapis persans d'une qualité incomparable dans tout leur appartement, cuisine comprise. Fugace pensée pour tous ces petits doigts qui les ont noués. L'exemple de cette nuit aussi est frappant. Il s'est rendu à une fête, organisée pour l'anniversaire de son frère, question de s'envoyer quelques louches de champagne caviar qu'elle garde lui faire une bourde en l'invitant. Quoi qu'il en soit, il s'est levé une nana, une secrétaire de direction, j'invente rien, qui a dû précisément succomber au fait qu'il devait détonner franchement dans l'assistance. Bref, la dame, jeune divorcée, habite une belle villa à la campagne où elle l'emmène passer un petit moment en intime. Après ça, comme elle s'est endormie, il lui pique quelques outils dans le garage et du bois de chauffage. Rentre à la maison, nous réveille pour l'aider à décharger et deuxième voyage. Redéchargement et refile pour retrouver le camion des laiteries réunies qu'il a croisé en rentrant. Le livreur fait sa tournée matinale. Chaque fois qu'il dépose sa marchandise devant un magasin ou un restaurant, Noël attend qu'il soit reparti et tourné au coin de la rue pour récupérer une bonne partie de la marchandise. Puis poursuit sa tournée avec le gars pendant une bonne heure. Le butin. 60 œufs, 40 litres de lait, 10 de crème double, 2 meules de fromage à raclette, 5 kg de gruyère, 80 yogourts. Tout ce qu'il a pu faire rentrer dans la bagnole. Noël est allé dormir, ça, il ne l'a pas volé. Moi, j'en suis à me demander comment on va se débrouiller pour s'enfiler tout ça. D'autant que, pour le moment, toujours pas d'électricité, et donc, forcément, pas de frigidaire. À propos de l'unité multiple d'intelligence successorale évolutive et des clones robots. Les clones robots sont nombreux, terriblement nombreux, et ils sont partout. Les modèles d'aujourd'hui sont presque indétectables. D'abord parce qu'ils sont complètement organiques et naturellement évolutifs. Ensuite, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont. L'unité multiple d'intelligence successorale évolutive collecte les informations dont elle a besoin en prenant soin de les laisser exister de la façon la plus normale possible, c'est un élément important du programme. Les clones robots se mélangent ainsi aux humains sans que personne ne s'en aperçoive. Fort heureusement, s'il est fréquent qu'un humain soit remplacé en cours d'existence par un clone robot, ces derniers ont... entre autres défauts, de ne pouvoir se reproduire avec aucun individu de notre espèce. Incompatible. Afin d'assurer leur descendance, les clones robots femelles tombent spontanément enceintes d'elles-mêmes, le facteur déclencheur restant le rapport sexuel, bien que l'acte en lui-même soit parfaitement stérile. Environ une fois sur 1,7, un chromosome X se change automatiquement en Y. De même, les gènes sont préprogrammés pour connaître des erreurs en se multipliant. afin de doter les clones robots d'une faculté d'adaptation et d'évolution comparable à la nôtre. Pour en venir aux façons de les détecter, d'abord, les clones robots ne sont pas très subtils, un vieux reste de fonctionnement binaire. Ils ont des caractères bien tranchés, des idées arrêtées, une opinion préprogrammée sur tout. Il est fréquent qu'ils envisagent le costard-cravate comme le sommet de l'élégance. Les clones robots occupent généralement des postes clés dans la société. Ils ont été conçus pour cela. PDG d'une multinationale, président fantoche d'une superpuissance occidentale, DRH dans une grosse entreprise, directeur de banque, psychiatre, voilà le genre de place qu'ils recherchent instinctivement. C'est un truc bien ficelé. Il n'y a qu'eux qui supportent ce genre de job. De par leur essence même, ils n'ont pas le sentiment d'être humains et se désolidarisent naturellement de ces derniers comme de leur environnement. Ce qui leur permet d'assumer en leur âme et conscience, si l'on peut dire ainsi, de ne justement pas assumer leurs ignobles responsabilités. Et à l'unité multiple d'intelligence successorale évolutive de garder le contrôle et poursuivre sereinement l'accomplissement de ses sombres desseins. « 23 juin. Le mal qu'on en dit, mais le bien que ça fait. Il y a tellement d'amour dans cette pièce. Tellement d'amour et de vérité. Et seuls les dieux que nous sommes sont capables d'envisager les mondes qu'ils ont à se révéler. Il y a du champagne aussi, on ne fait pas les choses à moitié. » Antoine est revenu d'Amsterdam, avec, dans ses petits bagages, 3 kilos d'un shit népalais magnifique. Un d'herbe carrément trop forte et, juste pour faire la fête entre nous, 10 grammes de coke, waouh. Il a rebranché l'électricité en 15 secondes et m'a ensuite filé de la thune pour que j'aille chercher du champagne à mettre au frais. Je me suis exécuté dans les meilleurs délais, même si je me demande parfois d'où sort tout ce blé. Certainement pas de son job de facteur. Le Chinois a débarqué on ne sait d'où, il est venu nous demander s'il y avait eu des appels pour lui. Noël, qui en avait effectivement pris un, lui a dit que oui, il fallait rappeler un certain monsieur Wang. « Wang, Wang, Wang » a-t-il demandé. Noël a répondu qu'il n'en savait foutre rien, mais qu'il lui semblait que le gars avait plutôt un accent cantonais. Ce qui nous a fait partir dans un accès d'hilarité, vraisemblablement perçu comme étant du plus mauvais goût par Sa Majesté. Oups, bon, il met les voiles, et nous, on rentre pour voir si le champagne est OK. Et goûter lassé. Le problème avec ce produit, c'est que ça monte vite et fort, surtout en fixe, mais que ça redescend tout aussi prestement. Et plus dure sera la chute. Pour pallier ça, puisqu'on en a à portée de main, on peut ajouter une pointe d'héros au mélange. Tant qu'à faire des extras, on n'est pas des lopettes. Putain, ce truc-là vous envoie sur la voie lactée comme de rien. Ça pulse, ça va vite, fort, loin, bon. Tu serais presque content quand ça diminue. Ensuite, le deuxième flash, celui de la poudre, qui monte derrière. Merveilleux et rassurant. Je vois la tronche de Noël en face de moi, en pleine montée. Il a les jugulaires ultra gonflés, les yeux lui sortent des orbites. Bref, on s'amuse comme des petits fous. Sauf que j'aime pas trop que Noël prenne des excitants. C'est plutôt un type configuré pour le smack et les joints, pas trop pour la coke et l'alcool. Il est déjà suffisamment parano comme ça, assez régulièrement. Il se fait des colères parfaitement effrayantes. Il vaut mieux qu'il s'enfile des machins qui calment plutôt que des qui allument. Et voilà, ça loupe pas, ça commence par « Attends, tais-toi, j'ai entendu un bruit derrière la porte. » Puis « Les flics, c'est les flics, putain! On va se casser par le jardin, grimper chez le père machin par la fenêtre et on mettra les voiles par derrière. » Puis, comme Antoine est allé vérifier qu'il n'y avait personne derrière la porte, déclare que « Non, tais-toi, je suis complètement dingue, je nous mets tous en danger, faut que je me casse. » Sitôt dit, sitôt fait, sans qu'on puisse rien pour le retenir. C'est un fait qu'Antoine et moi n'avons pas autrement envie de bouger. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici, on est tellement bien et personne ne pourrait comprendre. Y a-t-il d'autres mondes que la Terre, habités par des êtres conscients dans l'univers? Si oui, et alors? Beaucoup de mes contemporains se demandent s'il existe une forme de vie intelligente développée ailleurs que sur Terre dans notre univers et met dans cette question un formidable espoir. La vérité est-elle dans cet ailleurs ? M'est avis que ces gens devraient plutôt concentrer leurs efforts à apprendre à apprécier un coucher de soleil ou à faire l'amour à leur conjoint en y mettant un peu de bonne volonté et de fantaisie. Ou encore en trouvant un boulot qui les fasse un peu moins chier et qui n'emmerde pas les autres. Parce que, considérant que les 50 milliards de galaxies qui composent le 4% de matière ordinaire de notre univers se sont constituées à peu près simultanément, l'on comprendra aisément que leurs habitants biologiques conscients en soient tous à se poser à peu près les mêmes questions fondamentales. Grosso modo, l'évolution est la même partout, plus ou moins avancée selon les accidents de parcours. On retrouve le même genre de truc. Par exemple, les civilisations qui privilégient le développement d'une forme d'intelligence d'ordre technique au détriment d'une intelligence, disons, plus spirituelle, écrasent et anéantissent les autres. C'est une constante. Simplement parce que tout doit tendre à la complexification. Rien à faire, c'est comme ça. Si tout le monde dans le cosmos recherchait l'harmonie, à mieux comprendre son milieu, son prochain, et passait son temps à faire des balades, cueillir des fruits, baiser près du feu, mais alors où irait-on ? Non, ce qu'il faut, c'est trouver à des problèmes simples des réponses disproportionnées dont personne n'a aucune maîtrise des tenants et aboutissants afin qu'elles puissent engendrer des problèmes compliqués et perpétuer le cycle. L'unité multiple d'intelligence successorale évolutive sait parfaitement utiliser cet état de fait. 5 juillet. Surtout ne dis rien à Josiane qui ne comprendrait pas. Dans mon quartier, on rencontre parfois un adorable petit PD que je connais depuis des années par d'autres copains homo qui le tolèrent à leur table parce qu'ils l'utilisent tous, comment le formuler autrement, comme découilloir en période creuse. C'est un garçon très bien élevé, gentil et tout ce qu'on veut. Je l'ai toujours vu en costard-cravate, il me semble qu'il est comptable ou un truc dans le genre et on ne peut pas dire qu'on soit vraiment potes. Mais nous nous saluons et échangeons quelques propos sur le temps qu'il fait quand nous nous croisons au bistrot. De quoi je me mêle, mais à mon très humble avis, on dirait que malgré une certaine propension à le porter sur lui, il ne s'assume pas franchement en tant qu'homo. Même qu'il se prétend bisexuel avec une préférence pour les femmes. Certainement pour se prouver sa bonne foi, il sort depuis 3 ans avec une nana qui pourrait être la grande sœur de sa mère. Elle, quand elle s'est mise avec lui, venait de divorcer et de reprendre sa liberté après 25 ans de bagne, ou en tout cas, c'est ce qu'elle racontait partout dès qu'elle avait un verre dans le nez. Comme ça arrive souvent, elle a attendu que ses enfants quittent la maison pour en faire autant. Question de faire la transition, elle a pris une cuite qui a duré 3 mois. Ivre morte du matin au soir et vice-versa. C'est au cours de cette période de débauche et d'excès qu'elle a ramassé l'autre petit poussin qui cherchait une maman. Puis un jour, terminée la fiesta, comme ça, d'un coup. Elle a arrêté de picoler, en extérieur en tout cas, trouvé un appartement, repris son boulot de maîtresse d'école. Mais elle a gardé machin, je sais pas, comme un trophée peut-être. C'est vraiment difficile de comprendre par quelle alchimie vicelarde ces deux-là ont trouvé leur équilibre. De temps en temps, ils font un petit pèlerinage dans le quartier, une visite pour l'apéro ou une virée en fin de semaine. Et, comme à la belle époque, elle lui laisse porter son sac à main. Elle a l'air d'y tenir, à l'un comme à l'autre, parce qu'elle ne les lâche pas des yeux. Et fait toujours en sorte qu'ils ne s'éternisent pas, surtout si monsieur fait la causette à un beau garçon. Elle ne peut pourtant pas l'accompagner pisser. Dans mon quartier toujours, il y a des chiottes publiques. Des chiottes publiques tout publiques. Des tasses où des types viennent se faire sucer ou tirer un coup, des toxicos faire leur petit trafic et où quelquefois un innocent, de quoi, vient faire ses besoins. Bref, un endroit fort bien fréquenté. Une sorte de petite épicerie de la dope et du cul, ouverte la nuit, où on est presque sûr de trouver un dépannage. Pas toujours de la meilleure qualité, mais encore une fois, c'est juste pour dépanner. Et moi, j'ai attendu d'être à la maison pour m'apercevoir que je m'étais laissé avoir comme un bleu. C'était mon jour de distribution de médicaments. Voilà, loupé. Le centre est fermé jusqu'à lundi. Et je n'ai plus de moins de pils d'avance. Pour couronner le tout, ni Noël ni Antoine ne sont là. Antoine a même fermé sa porte à clé, comme si on allait venir fouiner. Oui, bon. Je descends la fin d'une bouteille d'un alcool très improbable qui traîne sur la table de la cuisine. Ça n'arrange rien du tout. Je me décide à ressortir. Pas besoin d'aller loin. Il y a un type que je connais sur la terrasse du café d'à côté. Mickey, presque un copain. Ça va, il peut me faire une pointe. Je paye la prochaine fois, il sait où me trouver. Mais ce n'était pas prévu. Il faut qu'il me prépare un paxon. On va aller faire ça dans les tasses. Elles sont en sous-sol, comme il se doit. Dans les escaliers, on est déjà saisi par une putain d'odeur de sperme et d'urine. Mickey est derrière moi, je rentre le premier et tombe sur Machin, mon petit camarade dont je parlais tout à l'heure, le futal sur les chevilles, en train de se faire pomper par un autre type à genoux. Quand il me voit, il vire blanc livide, sûrement que ça devient tout mou dans la bouche de son copain, et il finit par articuler à mon attention « Tu diras rien de la Josiane !» Incontrôlable éclat de rire nerveux. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il s'agit vraiment des tasses de l'incroyable. Une heure et demie plus tard, je me suis enfilé mon truc, il fait chaud, je dégouline, le smack est au poil, la nuit est si belle que j'ai très envie d'aller me balader encore un peu. Et voilà, dernière petite blague de la journée. Il y a une bagnole de flic garée devant les tasses. Vide. Ses occupants doivent précisément être au sous-sol, en train de faire leur boulot, ou des trucs qui ne me regardent pas. Juste alors que je passe sur le trottoir d'en face, j'entends un vrombissement derrière moi et des pneus qui crissent. J'ai à peine le temps de me retourner pour voir une caisse qui arrive plein de tubes, freiner à coin et se planter dans celle des poulets. Bingo ! Trois longues secondes plus tard, une nana s'extrait péniblement de l'habitacle. Très, très saoule, pas de doute là-dessus. Et tout de suite, elle se met à hurler. Des flics ! Non ! Merde, 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 putain, bordel, j'y crois pas, des flics ! Bon, la dame a l'air en bonne santé, moi, je presse le pas. On n'est pas obligé non plus de se mettre dans toutes les gonfles qui se présentent, parce qu'alors quoi sinon ? Téléporteur, énergie renouvelable et lunettes à rayon X. Sûrement que si j'avais été tout seul, je n'aurais jamais été pensé à ça. Ou alors la chose serait restée à l'état de projet loufoque. Mais en l'occurrence, question d'entretenir la conversation, j'ai dit « Et si jamais il existe dans le futur une machine à remonter le temps, rien ne nous interdit de fixer aujourd'hui un rendez-vous pour demain à son propriétaire. » Et tout le monde a dit que oui, très bonne idée, mais comment ? J'ai pris une feuille de papier à lettres et, avec un stylo bille, j'ai écrit. Message destiné aux hommes du futur. Frères humains qui, après nous vivez, n'ayez point contre nous le cœur trop endurci, par exemple, à cause de la désinvolture avec laquelle nos contemporains pillent la planète, et ça donne à toutes sortes de pratiques ignobles qui précipitent la venue du chaos. Sachez que nous ne sommes pas tous responsables du déséquilibre actuel et de celui qui suivra. Il y en a qui font tout leur possible pour ne pas y collaborer et tentent de rectifier le tir, même si nous ne sommes pas forcément d'accord pour décider de quelle fin nécessite quel moyen. Enfin bref, à chaque époque ses petits soucis, je suis certain que vous ne direz pas le contraire. Je l'ai lu à haute voix et tout le monde a trouvé que c'était un bon début. À propos d'époque, il va sans dire qu'à la vôtre, la technologie aura atteint des sommets inenvisageables pour nous aujourd'hui. À moins que tout ne soit détruit, que l'air soit devenu irrespirable ou que je ne sais quelle autre catastrophe fasse qu'il n'y aurait plus la moindre forme de vie sur Terre. Auquel cas, vous ne lirez jamais ces lignes. Mais si vous les lisez et que rien d'abominable ne s'est produit, sachez que nous vous souhaitons tout le bonheur du monde, à vous ainsi qu'à vos proches. Jasmine, la copine avec qui j'étais, a dit quelque chose concernant le fait qu'on s'éloignait un tantinet du sujet. Oui, eh bien, il s'agissait quand même d'y mettre la forme. On ne réclame pas comme ça une machine à remonter le temps à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Imaginez qu'un type du Moyen-Âge débarque chez vous et qu'avant de vous dire bonjour, il vous dise « Donnez-moi votre break 4 roues motrices, on n'en trouve pas à mon époque et j'aimerais beaucoup en avoir un, surtout un gros comme ça !» Vous ne trouveriez pas ça très poli et vous auriez raison. Pour en venir à ce qui nous occupe, nous souhaitons, nous devons absolument vous rencontrer. Nous sommes un petit groupe d'universitaires et, dans le cadre de recherches absolument fondamentales pour l'espèce humaine d'aujourd'hui et de demain, nous aurions besoin d'étudier le mode de vie des premiers Homo sapiens en temps réel. Si vous avez la possibilité de venir nous voir, vous aurez logiquement celle de nous emmener là-bas, ou plutôt ici, il y a 40 000 ans, à compter de nos jours. Quoi qu'il en soit, la rencontre devrait s'avérer enrichissante pour tout le monde. C'est pourquoi nous nous permettons de vous fixer rendez-vous le 10 juillet 1990 de l'ère chrétienne, au soir, ici même, aux gorges de X. Avec l'assurance de toute notre affection transtemporelle. Quatre homos, deux fois sapiens du passé. Merci.
C'était Philippe Gindre avec des extraits de son roman « Pagaille temporelle » enregistré à la Bibliothèque de la Cité à Genève le 16 septembre 2008.